La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
On est toujours lundi 29 avril 2019, vous êtes dans la midinale et c'est la partie « S'informer autrement ». On va commencer avec Steph, qui va nous causer de Eugène Varlan, un communard.
Alors, c'est Varlan.
Ah, j'ai mal écrit.
Non, c'est assez symptomatique.
Eugène Varlan.
Varlan.
Arrêtez, vous ne vous rendez pas compte de qui c'est Eugène Varlan. Bah alors, mais c'est assez emblématique, en fait.
On compte sur toi pour...
Globalement, il y a très peu de noms des gens qui, de la commune qui sont connus. Je ne sais pas, vous en connaissez quelques-uns? Louise Michel?
Ouais, c'est ça.
Je disais reclus. Moi, c'est un communard, non?
Jules Vallès? Non.
Non.
Mais en fait, c'est propre à la manière dont ils fonctionnaient. C'est pour ça aussi qu'on ne les connaît pas, qu'on les connaît pas spécialement. Et Eugène Varlan, c'est un des personnages... Important. C'est un des noms importants de l'histoire de la commune. Et en fait, pourquoi j'ai envie de parler de lui? Parce que je suis passée à la petite librairie il n'y a pas très longtemps. Et là, oh merveille, pas très loin du livre de Damasio.
T'en es où là, la snob
des furtifs? Je suis à la moitié. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc ouais, pas très loin du livre de Damasio, je suis tombée sur un livre donc qui vient juste de sortir aux éditions Libertalia et qui s'appelle Eugène Varlan, ouvrier relieur 1839-1871. Et donc en gros, c'est un livre qui va venir compiler l'ensemble des écrits connus à ce jour quoi de Eugène Varlan, donc membre de la commune. Et quand je dis l'ensemble des écrits, ça veut dire des articles qu'il a pu publier, mais aussi tout ce qu'il a prononcé comme allocution et toutes les lettres que l'on connaît de Varlan. Et en fait, c'est important qu'enfin y ait ce livre, parce que justement, on ne connaît pas Eugène Varlan. Alors, moi, je suis snob, donc évidemment, je connais Eugène Varlan. Non, c'est pas vrai, je connais Varlan parce que j'ai regardé des conférences de Henri Guillemin. Et on en entendra un petit bout tout à l'heure. Et je connais Varlan aussi parce que Varlan, il était relieur. Et que c'est les métiers du livre, forcément, quand on a travaillé dans les métiers du livre, on a entendu parler d'Eugène Varlan. Alors, c'est qui, en gros? Eh bien, Eugène Varlan, c'est un militant, d'abord. En fait, il y a plusieurs choses, moi, que je trouve exemplaires chez lui. Son activité militante. Donc Varlan, c'est quelqu'un qui naît dans une famille hyper pauvre, qui a d'abord été peintre, et puis qui assez rapidement, il a 18 ans, il devient relieur. Donc il est à Paris, et assez rapidement, il a une activité syndicale, et donc il participe à la fondation en 1857, il a 18 ans, il est né en 1839, donc en 1857, à 18 ans, il participe à la fondation de la Société de Secours Mutuel des Relieurs. En gros, c'est une coopérative pour s'entraider et puis pour militer ensemble. Cette coopérative, ce syndicat des relieurs, en gros, va avoir une très forte activité militante et il animera l'ensemble des grèves de 59 jusqu'à la fin des années de 1860. Pour cette activité-là, il se retrouvera assez régulièrement en procès, assez régulièrement emprisonné. En 1865, il adhère à la Première Internationale, donc qui a été fondée en 1864, et il est celui qui sera le représentant, le délégué, donc pour la Première Internationale à Londres en 65, à Genève en 66, et comme ça toute sa vie, il va contribuer à, par son activité militante, à créer des coopératives, des syndicats et à faire avancer les choses. Et par exemple, donc il crée ensuite, fin des années 1860, la Société de solidarité des ouvriers relieurs. Et en 1869, la Fédération parisienne des sociétés ouvrières, qui, une fois qu'elle deviendra nationalisée, enfin qu'elle aura des ramifications nationales, deviendra la CGT. Donc Varlin, enfin, je veux dire, ne serait-ce que sur cette histoire-là. CGT, on voit à peu près ce que c'est. Varlin, c'est quand même dommage qu'on ne se souvienne pas de son nom, quoi. Donc ça, c'est sur son activité militante. Eugène Varlin, il a quelque chose de particulièrement intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui passera toute sa vie à militer sur des questions d'égalité, d'égalité des sexes. Pour lui, il n'y a pas de... C'est pas possible d'un genre dominant sur un autre. Il s'oppose tout le temps, au sein des syndicats auxquels il participe, à des volontés d'empêcher les femmes de travailler. Et il militera tout le temps pour permettre l'égalité salariale avec les femmes et l'accès au travail pour les femmes. Et notamment, et c'est pour ça que je le connais aussi, Varlin, c'est quelqu'un qui va permettre, parce que il y a des femmes qui sont brillantes hein, autour de lui, sauf qu'elles n'y ont pas accès, et elles n'ont pas accès aux responsabilités. Et par son travail, par sa force de persuasion, il réussit faire prendre des responsabilités à des femmes dans les syndicats, et notamment une femme qu'on connaît vaguement ici, qui s'appelle Nathalie Lemel, donc qui est une communarde brestoise, qui est connue pour avoir été exilée en même temps que Louise Michel, et qui est connue pour avoir... Enfin, elle n'a pas laissé d'écrit, c'est pour ça qu'on la connaît moins. Par contre, Louise Michel parle beaucoup, beaucoup d'elle, Varlin parlera beaucoup, beaucoup d'elle aussi, et elle sera hyper active sur tout le temps de la commune, et donc c'est une brestoise. Voilà. Et donc, il permet à Nathalie Lemel de devenir, je crois, c'est trésorière du syndicat des ouvriers relieurs, parce que Nathalie Lemel était relieuse, elle aussi. Donc ça, c'est aussi un aspect que moi, j'aime chez Varlin, quoi. Il y a une troisième chose qui est intéressante, enfin que moi, je trouve particulièrement intéressante, et Guillaume, ici présent, ne me contredira pas. C'est Varlin et la création de la coopérative alimentaire.
On va t'appeler Eugène maintenant.
En gros, il va créer avec quelques autres, mais il va créer une coopérative alimentaire à Paris en 1865, je crois, quelque chose comme ça, qui tournera jusqu'à la fin de la Commune et qui s'appelle la Ménagère de Paris. Et en gros, l'idée, c'est dire que bon, il y a les ouvriers, certes, ont gagné quelques droits, tout ça, mais encore pas assez, et que leur permettre de se nourrir, on peut faire la révolution que si on n'a pas faim, et qu'il faut collectivement s'arranger pour que personne n'ait faim. Et en fait, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont créer donc la ménagère, puis créer un restaurant ouvrier populaire qui s'appelle la Marmite. Avec donc ils sont quelques-uns, hein, notamment Nathalie Lemel, qui est la trésorière de la Marmite, là aussi. Et en gros, l'idée, c'est faut adhérer à la coopérative alimentaire. Et puis, il faut participer, trouver des produits, faire en sorte que ce soit le plus juste prix et le plus acceptable prix pour les producteurs, mais aussi pour les gens qui vont consommer. Et puis... cette marmite, c'est d'abord un restaurant ouvrier qui permet à ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Mais petit à petit, ça devient un lieu d'échange, un lieu où, par exemple, en plus de manger, on pouvait, chose assez extraordinaire en 1865-70 à Paris, avoir accès à la presse une fois qu'on allait à la marmite. On pouvait entendre Nathalie Lemel qui... résolvait des problèmes insolubles avec un sens pratique sans nom, c'est les témoignages qu'on a, ou des poètes déclamaient de la poésie, ou coopérative alimentaire, quoi. tu vois ce que je veux dire. et puis il y a Varlin et la commune. Et Varlin, il participera à toutes les actions de la commune. Il est de la prise de la place Vendôme du 18 mars jusqu'au dernier son de canon entendu. Il sera partout. Il sera élu aussi triomphalement pour être représentant de la commune. Il y a un autre truc qui est vachement intéressant chez lui, c'est qu'à un moment de la commune, donc entre le 18 mars 71 et mai 71, juste avant la semaine sanglante, la commune est active et s'organise, et il y a une tentative de créer ce qu'on appelle un comité de salut public. Et Varlin s'y oppose farouchement. Il refuse que le pouvoir soit dans quelques mains, trop peu de mains, et il fait partie des gens qui sont les signataires d'un manifeste des minoritaires. C'est un anti-autoritaire farouche, Varlin. Il refuse vraiment jusqu'au bout de qu'on décide à sa place et que d'un seul coup ça lui échappe. Et en fait, il luttera jusqu'au bout. Il compte pas son temps, il compte pas sa peur. Et il finit par mourir le 28 mai 71. Il a 31 ans. Et je laisse Henri Guillemin. Donc Henri Guillemin, dans une série de conférences sur la commune, c'est 13 conférences sur la commune. Là, il parle de Varlin dans le 12e épisode, qui s'appelle « Le fond des choses ». Et avec son lyrisme particulier, Guillemin va expliquer la fin de Eugène Varlin.
Varlin, maintenant. Regardez-le bien, Varlin. Chevelu, comme ça, barbu. Regardez ses yeux en particulier, ce visage réfléchi. C'est un homme qui n'est pas de gauche, certes, c'est le comte Hérisson d'Hérisson qui dira « intelligence d'élite, homme de cœur ». Il subit toutes les tortures qu'au péril de sa vie, il avait voulu épargner aux otages. Oui, vous vous rappelez quand je vous ai raconté ce qui s'est passé rue Axau et que je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de membres de la commune qui avaient risqué leur vie pour protéger les otages, il en était Varlin. D'où sortait-il? C'est un garçon qui a 31 ans, en 1871. C'est un homme qui a voué exactement, mais toute sa vie, en fait, tous ses pouvoirs, comme Delectus qui ne s'était pas marié, lui non plus, se mariera pas, au travail révolutionnaire. Marx, en 1847, dans un bouquin qui s'appelle « Le salaire ouvrier », avait parlé de ces hommes qui font de leur activité révolutionnaire l'unique joie de leur existence. C'est exactement ça, Varlin. C'est quelqu'un qui s'était inscrit tout de suite à l'International, l'Association Internationale des Travailleurs, et qui voulait non seulement tâcher d'ouvrir les yeux aux gens, leur faire réfléchir sur les causes de leur misère, mais qui voulait essayer d'apporter tout de suite des choses concrètes et pratiques. Il disait, ça ne suffit pas de donner des idées, mais il faut déjà apporter, si on peut, un morceau de pain. Alors je sais bien qu'on peut hausser les épaules devant ce qu'il avait fait, c'est-à-dire des espèces de coopératives populaires qu'on appelait la marmite. Enfin, ça permettait de nourrir un certain nombre de gens. Il va être au premier rang, je vais le dire, de l'International, il sera naturellement poursuivi dans les divers procès, et au moment de la commune, il va se lancer à fond. C'est lui, dès la constitution du comité central, qui va dire, si jamais nous n'arrivions à obtenir quelque audience au comité central, ils sont 35, hein, et il s'était glissé, là, ce serait un grand pas fait vers l'avenir social. Pendant tout le cours de la commune, il va s'occuper de tout ce que l'on voudra. Il est toujours disponible, c'est un homme qui travaille du matin au soir. Il aide la commission des finances. Et puis il va s'occuper aussi de l'intendance militaire, jusqu'au moment où le comité central dira, c'est le 3 mai, vous n'avez plus à vous en occuper, nous en occupons nous. Or lui, tant qu'il s'en occupait, les marchés étaient honnêtes, et dès que ça sera le comité central, ça sera la gabegie que vous savez. Il va être du comité de travail avec Frankel, c'est un homme qui va se dépenser d'une manière totale. Lui aussi, ça me plaît bien, il est séparé de Proudhon. Et Proudhon était un homme qui passait son temps à répéter, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir politique. Et un homme comme Delescluze, je vous l'ai dit, avait déclaré que si on ne prend pas le pouvoir politique, il n'y a rien à faire du point de vue de la politique sociale. Alors lui aussi, lui, Varlin, parlera dans une lettre de si proudhonien attardé, où il ajoutera « Pour nous, la révolution politique et la révolution sociale s'enchaînent et ne peuvent aller l'une sans l'autre. Seule, la révolution politique ne serait rien. » C'est de sa fin que je voudrais vous parler, parce que c'est encore une de ces choses horribles que j'aime pas raconter, mais enfin je suis là pour ça, hein, parce que l'historien, je voulais être loyal. S'est battu jusqu'à la fin. Il avait pris les risques les plus extrêmes. Quartier Vavin, quartier de la Croix-Rouge. Et puisqu'il n'y avait plus maintenant de résistance qu'à Belleville, et puisque vous le savez, la dernière bataille se livrera au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise, et que le dernier coup de canon sera tiré rue Ramponneau à Belleville, il est là, Varlin, avec Valèze du reste. C'est fini. Les derniers combattants sont tombés, la barricade a été prise, lui il s'est enfui, il n'avait pas été tué, pourtant Dieu sait qu'il était tout le temps sur la barricade. Et le voilà qui est place Cadet, harassé, abruti. Il est assis sur un banc de la place Cadet, réfléchissant à ce désastre. Quand quelqu'un, dont on a dit, mais je ne peux pas vous l'affirmer, dont on a dit que c'était un ecclésiastique en civil, l'a reconnu. Alors ce quelqu'un est allé trouver une patrouille, il y avait le lieutenant Sicre, et l'individu, enfin le dénonciateur, peut-être prêtre, dit au lieutenant, c'est Varlin, c'est Varlin. Alors ces soldats s'emparent de Varlin. Ils le conduisent où ? Ben, nous sommes près de Montmartre, ils le conduisent rue des Rosiers. C'était rue des Rosiers où Clément Thomas et le comte avaient été fusillés. C'est rue des Rosiers qui avait autrefois le siège du comité de vigilance, et c'est maintenant devenu une prévôté militaire. Alors on va conduire Varlin à la prévôté. Et ben, ce qui est affreux à dire, hein, ce qui est affreux à dire, c'est que ce n'est pas les soldats de Versailles qui vont se conduire atrocement contre lui. Oui, ils le secouent, ils le brutalisent, mais enfin, ils se conduisent à peu près proprement. Et c'est quand on va le traîner de la rue des Rosiers au sommet de Montmartre, et c'est pas loin, c'est la foule des gens de Montmartre qui va se précipiter sur lui. Qui, pour se protéger, parce que les Versaillais sont les plus forts, se jettent sur les hommes de la Commune, parce que les hommes de la Commune sont des vaincus. Et Varlin, les soldats le protégeront sans doute bien mal. Mais Varlin qui ? Vous avez entendu, Hérisson le disait, qui avait risqué sa vie pour défendre les otages. Varlin va être lui-même un otage livré à cette foule qui se retourne maintenant contre ceux qui l'ont défendu. On va en effet lui crever un œil, on va lui griffer la figure. Les soldats s'amusent sans doute de voir leur captif ainsi maltraité. On arrivera à l'asseoir sur une chaise. Il se tient encore debout. Il a un œil fermé puisqu'il est crevé. Il regarde comme il peut avec son autre œil. Il a essayé de croiser ses pauvres bras et on l'a tué comme ça. Vous savez ce que ça veut dire, Montmartre, hein? Mons Martyrum, le mont des martyrs. Eh bien, j'ai l'impression que jamais le mont des martyrs n'avait mieux mérité son nom que le jour où on a tué Varlin.
Merci, Henri Guillemin.
Ambiance.
Ouais. Mmh. Moi, j'adore sa façon de raconter des histoires. Il est complètement possédé. Donc, le mont des martyrs. On a tué Varlin. Alors, donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus... sur qui est Eugène Varlin, donc il y a le livre dont je parlais. Donc ça s'appelle Eugène Varlin, ouvrier relieur, 1839-1871, aux éditions Libertalia. C'est un livre qui a été écrit par Michèle Audin, donc qui n'est pas historienne, mais qui est quelqu'un qui est passionné par la Commune et qui tient un blog, qui est un blog hyper documenté, qui s'appelle macommunedeparis.com. Et en regardant son blog, j'ai vu qu'elle avait donné une interview à Ballast pour la sortie du livre au mois de mars. Donc l'interview est bien aussi sur Ballast. Et puis voilà, j'ai fini. Ça me fait toujours un peu, je sais pas, un truc de cœur qui se fend quand j'entends parler de Varlin.
Ah, je crois que quand tu finis une chronique.
Ah non, ça va, j'arrive à gérer. Je sais que je vais reprendre la parole à un moment.
J'en profite pour dire du coup qu'il y a une coopérative alimentaire Guérin qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. C'est une association et vous pouvez y adhérer. C'est tout nouveau.
Mais comment ? Par où ?
Ah oui, alors... Alors,
l'adresse mail. Quelqu'un va pouvoir nous livrer des détails pratiques.
L'adresse mail peut-être pour les contacter.
Pour contacter la coopérative, oui, par courriel ou de vive voix avec les personnes qui sont déjà membres. Et une prochaine rencontre, en fait, courant mai, fin mai, permettra d'intégrer de nouveaux coopérateurs. Et d'ici là, pour les personnes qui le souhaitent, on distribue des bulletins d'adhésion. Mm-hmm.
Donc, vous entendez la voix de Guillaume qui nous a rejoint pour cette deuxième partie et qui a préparé une chronique d'inactualité éditoriale.
Et oui, bonjour à toutes et tous. Après ce que nous disait Steph sur les parutions récentes des éditions Libertalia, il m'a semblé intéressant de refaire un petit tour sur des publications passées. Et avant que l'on ne commence, je vous propose d'écouter la chanson « Les étrangers » de Léo Ferré.
Thank you. Regarde là ta voile, elle a les seins gonflés, la marée de Toto te l'a déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drape pas dans Paris. T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même à terre, c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, homme ou chien c'est pareil, on les regarde naviguer, et dans les rues de l'Orient ou de Brest pour les sauver, il y a toujours un marin qui rallume son voile. Regarde la taquille à la mer en allée, la marée de tantôt te l'a tout enjubée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. T'as le cœur comme ces rocs vêtus de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'accrochait deux ancres aux doigts de chair, et les lignes de ta main s'assoient au fond de la mer. C'est pas comme un avril 68, Clochu, tu t'en souviens, dans ces rues de l'emmerde, on était trois copains au bout de mille nuits, et le jour qui se pointait, afin que rien ne se perde, quand la mer se ramène avec des étrangers, en Bretagne, y a toujours la crêperie d'à côté, et un marin qui te file une bonne crêpe en ciment, tellement il y a fourré des tonnes de sentiments. Regarde la tabarre comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros tragiques. La mer à ses anglais avec le drapeau noir, on dirait 68 qui sent rien du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé. Si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré. C'est pas comme un avril de mon cul dans ce bar adossé au destin de la rue. Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an 10 000, l'eau chute, tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là. La mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie. Et quand on se ramenait avec nos galaxies, ça faisait un silence à vous mourir d'envie. Et les soirs d'illusion, avec la nuit qui va, dans Brest ou dans l'Orient, on pleure et on s'en. L'an 10 000, le CHU, tu te rappelles? L'an 10 000, tu te rappelles? Le CHU, l'an 10 000, l'an 10 000. L'un des mille.
Ferré, les étrangers, Ferré, qui n'étaient pas un saint et qui étaient même des plus misogynes, comme va nous le rappeler Stéphanie, je crois qu'il y a récolté quelques aimables alors, citations et poésies.
Ça permet de faire un petit coucou à Matt, c'est Matt en fait qui
salut.
A...
Salut Matt.
Coucou Matt. C'est Matt qui nous a envoyé...
Arrête de dire à la snob que sa musique est cool.
C'est Matt qui nous a envoyé... Quelques phrases, je vais en lire une. C'est un entretien télévisé qui date de 1979. Je cite Léo Ferré. La misogynie, c'est intéressant, vous savez. Il faut être misogyne. Il faut savoir mettre les femmes à leur place. Et quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles nous foutent la paix.
Bien. Moi, j'ai découvert aujourd'hui que Léo Ferré, tu vois, moi je connaissais juste ses chansons, je l'avais jamais écouté parler, voilà, et encore je connais quelques chansons, c'est tout, c'est décevant,
c'est décevant, oui.
Parce que la chanson qu'on vient d'entendre, par exemple, est très belle, quoi, c'est vrai, dis bon, et ce que tu viens de dire, c'est atroce, quoi, c'est...
Ouais, alors moi je découvre la citation, mais j'avais vu une vidéo il y a quelques années de ça où il disait qu'il voulait plus de femmes intellectuelles chez lui, que ça le saoulait en fait, comme quoi il n'aimait pas la contestation des femmes intelligentes, quoi. Non, ça le faisait pas pour lui.
Voilà. Bon, mais heureusement il y a des hommes et des femmes comme Eugène Varlin et Louise Michel pour porter bien haut les flambeaux nécessaires. Mais bon. Si je vous ai proposé d'écouter cette chanson, ce n'est pas pour les prises de position et la bêtise de Léo Ferré, mais c'est parce qu'il évoque donc à travers elle une tournée en Bretagne qu'il a faite en avril 68, et donc le Lochu qu'il interpelle dans sa chanson, c'est un militant morbihanais et brestois, René Lochu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Libertaire, mes compagnons de Brest et d'ailleurs », publié aux éditions La Digitale en 1983. Une autobiographie. Et si j'ai eu envie de vous en parler de ce premier livre et des livres qui vont suivre, c'est pour faire suite à ce que disait Stéphanie sur les libertaires, les anarchistes. Donc, à travers les livres que je vais vous présenter sur des libertaires et des anarchistes en Bretagne, à Brest notamment. Donc René Lochu, il est né à Vannes, il va traverser tous les grands événements du XXe siècle, 14-18, la révolution de 17. Il est sous les drapeaux en fait, donc pendant la guerre. Et il va aller en mer Noire, puisqu'il faut savoir que la Première Guerre mondiale ne se termine pas le 11 novembre, mais se poursuit en mer Noire, puisque les puissances alliées vont attaquer la Russie bolchevique pour tenter d'aider les armées blanches, donc les armées qui soutenaient le régime du tsar. Donc René Lochu nous raconte tout ça, donc ses années de jeunesse, ses années de guerre, puis ce qui nous intéresse un peu plus, et ce dont transcrit un peu la chanson de Léo Ferré, ses années à Brest, puisque après son retour en France, il va s'établir à Brest de 1923 à 1941, jusqu'à ce que les bombardements l'obligent à quitter la ville. Et donc si j'ai eu envie de vous parler c'est un beau livre, il me semble, qui permet d'avoir une autre idée de la ville de Brest, donc de toutes ces années militantes, à travers donc sur un texte autobiographique qui raconte très simplement toutes ces années, donc avec par exemple les grands événements que traverse la ville, Sacco et Vanzetti, les émeutes de 1935 à Brest, qui ont été très violentes après que Pierre Laval donc le président du conseil de l'époque, diminue la paix des ouvriers de l'arsenal, ce qui va conduire à des journées d'émeute en 1935 à Brest et la mort d'ouvriers, de plusieurs ouvriers, dont Joseph Barraer. Donc je passe tous les détails pour aller à la deuxième publication, puisque ce Pierre Laval, on le retrouve du côté de René Vautier, qui, après son passage en Afrique dans les années 50, dont il a tiré un petit film, Afrique 50, si je ne m'abuse, très beau lui aussi, que je vous conseille, enfin très beau, qui raconte toutes les horreurs de la colonisation. René Vautier, il est... Et donc, si j'évoque Pierre Laval, c'est que René Vautier raconte qu'arrivant en Afrique, il est soumis à des pressions et de la part de l'administration coloniale en vertu de décrets et arrêtés pris par Pierre Laval, donc, qui venait pendant la guerre, collaborer avec les Annies sous le régime de Vichy. Donc René Vautier, après l'Afrique, est appelé à Brest par les syndicats brestois, parce qu'à Brest, en 1950, il y a de nouveau de grandes grèves dans le cadre de la reconstruction de la ville, donc qui a été rasée durant la guerre, on le sait tous. Et durant la reconstruction, ce que l'on sait moins, c'est que une grande grève se déclare, ce qui va conduire à la mort d'Edouard Mazé, un ouvrier, durant la répression. Et donc René Vautier va produire un film, aujourd'hui disparu, Un homme est mort, en 1950, qui raconte cette histoire. Film et histoire qui va donner lieu plus récemment à la publication par Davodo et Chris d'une bande dessinée au même titre, Un homme est mort, publié en 2006 chez Futuropolis. Voilà, après ce passage dans les années 50, je vous propose de revenir un peu en arrière, puisque ce Brest, en fait, ce Brest tout blanc qu'on connaît aujourd'hui, c'est une phrase d'un auteur dont je vais parler tout à l'heure, ce Brest ancien, enfin ce Brest récent, ce Brest de la reconstruction, il a recouvert le Brest ancien, il a recouvert Brest la Rouge. Et Brest la Rouge, outre ces émeutes de 1935, ou toutes les péripéties que raconte René Lauchu, parmi ces péripéties, il y en a une dont vont se saisir aussi Chris et Cuvillier Gallic, en 2016, avec une bande dessinée qui s'appelle Nuit noire sur Brest, issue d'un livre qui s'appelle, lui, Nuit franquiste sur Brest, publié en 2013 par les éditions Cobbrez, par Patrick Gourlet, qui raconte l'arrivée en 1937 d'un sous-marin espagnol à Brest, le C2, durant la guerre d'Espagne, qui fuyait la guerre d'Espagne. Et donc ce livre et cette bande dessinée racontent la solidarité des libertaires et de tous le milieu syndical, politique brestois, donc libertaires, socialistes, communistes, suite à l'arrivée de ce sous-marin, et les manœuvres des franquistes pour tenter de récupérer le sous-marin, manœuvres qui vont échouer. Et donc après ce passage, après avoir survolé les années 20, les années 40, la reconstruction des années 50, après être revenu dans les années 30, je vous propose de repartir au début du XXe siècle, avec un dernier ouvrage de Jean-Yves Guingamp, « Nous ferons la grève générale », publié aux éditions Goater cette année, et donc qui fait le récit, donc, depuis la fin du 19e siècle et début du 20e, du milieu, donc en particulier anarchiste et libertaire brestois, autour des figures de Jules Le Gall, et notamment et aussi Victor Pingam, et donc qui raconte encore toute cette histoire de Brest la Rouge, cette histoire sociale.
Ou la Noire ?
Brest, rouge et noir, effectivement, et notamment autour donc des luttes de Jules Le Gall et Victor Pingam, donc pour constituer pour diffuser des idées libertaires, antimilitaristes, jusqu'à la construction d'une maison du peuple en 1924. Alors non pas une maison du peuple comme on peut l'entendre aujourd'hui à Brest, qui est en fait une bourse du travail, une bourse des syndicats municipaux, mais en fait une maison du peuple autogérée, donc anarchiste, qui de 1924 à 1940 va être le cœur de nombreuses activités politiques et sociales, artistiques, à Brest et dans tout le Finistère. Donc voilà, je rappelle tous les titres que j'ai cités. René Lauchu, Libertaire, mes compagnons de Brest et d'ailleurs, publié en 83 aux éditions La Digitale. Donc, Davodo et Christ, Un homme est mort, une bande dessinée de 2006, issue de René Vautier, donc le film de René Vautier, Un homme est mort, donc de 1950. Patrick Gourlet, Nuit franquiste sur Brest, 2013, édition Cop Brest, et Nuit noire sur Brest, Cuvillier Gallic et Chris, 2016, Futuropolis, et enfin Jean-Yves Guingamp, Nous ferons la grève générale, 2019, édition Goater. Et donc pour finir cette évocation de quelques titres permettant de remonter aux sources du Brest ancien, donc l'explication de cette chanson de Léo Ferré, c'est 10 000 ans dont parle René Ferré. Ce Lauchu, c'est René Lauchu dont je vous avais parlé, et ces 10 000 ans, c'est en fait une citation de Jules Le Gall, qui, lors d'un procès aux assises à Quimper, répond à l'accusation par la citation suivante. Hier, l'on disait que ce serait dans 10 000 ans, la grève générale. Je ne vous cache pas que ma pensée est que je voudrais qu'elle éclate demain, lance-t-il au procès qu'on lui fit pour délit de syndicalisme en 1907, écrit Jean-Yves Guingamp. Voilà pour terminer sur cette évocation du Brest ancien.
Merci. On fait une petite pause musicale. Toujours la contre-pause musicale Léo Ferré.
Ça va traîner dans la bibliothèque Piquet.
Eh bien, le Libertaire, mes compagnons de Brest et d'ailleurs, est déjà dans la bibliothèque Piquet. Et oui, j'ai oublié de le mentionner, vous pouvez l'emprunter rue Navarin. Et je pense que les autres titres y figureront...
Un homme est mort, il y est déjà aussi.
Évidemment.
Appel au don aussi, hein, si vous avez des bons bouquins.
Qu'un jour on aura assez de. Ouais, déjà, don de bouquins.
Ouais, parce qu'en fait, jusque-là, on n'avait pas le temps, pas de place. Ça y est, on a récupéré. On a fait un appel à étagère qui a été, ouais. qui a été entendu, donc c'est bien.
Et, thank you, Billy.
Et en fait, on a déjà quelques bouquins glanés, ça et là. Et en fait, la bibliothèque, elle est ouverte, quoi. Il faut, ouais, n'hésitez pas à déposer vos livres. Il y en a qui le font déjà. C'est plutôt orienté histoire, sciences sociales, philosophie, un peu de poésie. Mais bon, si vous voulez y mettre de la bande dessinée, allez-y.
La science-fiction, on a droit ou...
Ouais, il y en a aussi. Il y en a aussi. Science-fiction, c'est trop naze. Tu m'étonnes.
Donc on fait cette pause musicale. On écoute Brigitte Fontaine, Prohibition.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision. Papier clope manque de fric. Et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition. Paroles, cris, fornication. Foutre interdit à 60 ans. Ou scandale et ricanement. je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés. À moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. D'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans loi ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.